J'ai donc fait déjà commencer en introduction un retour sur le Dieu de paix. Ce Dieu de paix qui, nous l'avions lu dans l'Épître aux Hébreux, peut nous rendre capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et faire en nous ce qui lui est agréable. Ce Dieu qui peut, d'après 1 Thessaloniciens 5, 23, nous sanctifier tout entier. Ce Dieu, selon Romains chapitre 16, verset 20, qui écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Et nous avions rappelé que si Dieu est appelé le Dieu de paix, c'est qu'il a fait la paix par le sang de la croix. Et il est bon d'insister aujourd'hui et de relire le passage adéquat dans l'évangile, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 2, versets 11 à 17. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Il est question d'inimitié dans ce passage. Et la démonstration est faite par l'apôtre que Dieu a définitivement réglé la dispute. On peut dire la dispute en légitimité. L'antagonisme religieux était grand entre les Juifs convaincus de leur pureté par l'observance de la loi, que ce soit par les commandements, que ce soit par les rituels de purification. Les gens des autres peuples, aussi pieux étaient-ils, étaient nécessairement déclassés. Impossible pour eux d'entrer dans la communion spirituelle avec le Dieu révélé. Impossible d'être au bénéfice des promesses et bénédictions divines. Impossible, par exemple, de manger avec un juif. Le païen était séparé du Dieu saint, à moins de se faire juif, à moins de se faire circoncire, à moins d'observer la loi tout entière. C'est ce qu'on appelait les prosélytes. Et la situation, finalement, était juste. Parce qu'après tout, si Dieu avait sur la terre un peuple saint, qui le louait, en qui il pouvait se réjouir, les choses pouvaient demeurer ainsi. Et qui sait si le judaïsme triomphant n'aurait pas amené tous les peuples à judaïser pour former une seule humanité sainte. Vous êtes la lumière des nations, disait le prophète. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Et au moins, si les nations restaient rebelles, c'était de leur faute, c'était pour leur condamnation. Et la glorification de l'Israël fidèle à Dieu. La situation pouvait demeurer si effectivement le peuple juif avait été dans la fidélité à ce qu'il avait reçu de Dieu. À un détail près, c'est que le scénario parfait était démenti par les faits. Et Paul va le dire de façon très sévère dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, versets 17 à 24. Toi, qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Échec. Échec total du juif. Paul réprimande a posteriori des événements de l'évangile. Mais les événements de l'évangile sont en eux-mêmes la démonstration de la faillite juive. La faillite de l'homme sous la loi. Or, s'il y a eu une faillite juive, il y aurait nécessairement faillite de tout système religieux qui prétendrait amener l'être humain dans la sainteté divine. La démonstration de la faillite juive, c'est que lorsque le Saint a paru, Jésus, le Fils de Dieu, il est vite devenu insupportable à ces hommes soi-disant purs. Et cela s'est terminé par le sang de la croix. Parce que le juif légaliste n'a pas supporté la présence du juste et du saint. Preuve que quelque chose de plus profond dysfonctionnait totalement dans le cœur juif, comme dans le cœur de tout être humain. Sous ce regard, le juif s'est montré ennemi de Dieu et il s'est disqualifié étant ramené de cette fête-là au rang des païens, incapables de plaire à Dieu. On peut dire qu'il n'y avait plus personne pour courir la course vers le paradis. Plus aucun concurrent sur la ligne de départ. Tous disqualifiés. Et que nul ne s'avise d'arriver avec de nouvelles prescriptions en proclamant « Oui, mais moi, j'aurais su. J'ai la nouvelle donne, le code secret ou que sais-je encore. » Pour parvenir à la présence de Dieu, pour parvenir à la sainteté. C'est malheureusement, historiquement, ce qui s'est passé 6 siècles après l'Évangile. Avec la loi de l'islam qui est apparue comme prétention de reprendre la course pour plaire à Dieu. Mais par la démonstration de la faillite du juif, il n'est plus question d'un salut par les œuvres de la loi. La démonstration est celle-ci. Le péché de l'homme pécheur a amené l'homme saint, le juste, à la croix. Et tout se serait fini là. S'il n'y avait pas eu, dans le don volontaire du Fils de Dieu, un secret qu'il avait commencé à partager avec ses disciples, mais qui était dur de compréhension, ils n'arrivaient pas à comprendre qu'il fallait que Jésus aille à la croix. À 3 reprises, il les a avertis qu'il fallait que le Fils de l'homme soit livré, meure entre les mains des pécheurs. Et ce secret, c'est la puissance d'un pardon infini. C'est le mystère de Dieu par lequel il a envoyé son Fils dans le monde. Sur la croix, Dieu ne regardait pas le péché de l'homme, mais l'amour de son Fils pour ses frères. L'amour de Jésus qui se donnait lui-même en rançon pour tous. Et l'amour de Jésus traduit l'amour de Dieu le Père pour le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui s'est passé sur la croix, c'est que l'amour de Jésus s'est montré supérieur à tout péché humain. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et Dieu, ce jour-là, à cet endroit et à ce moment-là, Dieu a effacé le péché. Il s'est réconcilié l'humanité par le seul juste qui y avait vécu et qui se donnait pour les injustes. Alors il est évident que, mourant sous les coups des privilégiés de la loi, car c'est bien le Sanhédrin juif qui a ordonné la condamnation de Jésus, mourant sous les coups des privilégiés de la loi et leur pardonnant, le Fils de Dieu englobe dans son pardon tous ceux qui n'avaient pas les privilèges de la loi. Il supprime du coup l'antagonisme entre le juif et le non-juif. Et tous se voit proposer la paix aux mêmes conditions de la repentance envers Dieu et de la foi en son Fils qui s'est donné pour nos péchés. Le juif, le non-juif, bénéficie de la même grâce. C'est pourquoi l'Épître aux Éphésiens, le passage que je viens de vous lire, les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et là où le passage commençait par « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé de droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde », l'apôtre peut poursuivre au verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Amen. Ce n'est pas rien que d'être approché par ce mystère de l'amour de Dieu. Et si vous aviez encore quelques doutes sur cette massive bonne nouvelle pour votre âme, laissez-vous rejoindre par cette autre démonstration de l'apôtre que nous trouvons dans 2 Corinthiens au chapitre 5, à partir du verset 11. Connaissant donc la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ce qui s'est passé à la croix, lorsque Jésus portait dans son corps nos péchés sur le bois. Il était considéré comme étant le péché. Et il mourait à cause de ce péché. Mais ce péché, il nous l'enlevait, puisqu'il le portait, il le prenait pour nous, pour lui. Et il laissait la liberté à son Père de nous rendre justes. Et nous le devenons par la foi. Lorsque nous recevons pour notre part, dans la repentance, le don du sacrifice de la vie du Fils de Dieu. Nous sommes délivrés de nos péchés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Il ne reste que cette interpellation, soyez réconciliés avec Dieu, dans le sens, recevez pour votre part le témoignage du Fils de Dieu. Recevez dans vos cœurs le pardon, la purification. Laissez Dieu faire de vous cette nouvelle création qu'il prépare pour une vie parfaite, sans péché, glorieuse auprès de lui pour l'éternité. C'est là le message du Dieu de paix. C'est là la paix que Dieu a signée pour vous tous, pour nous, ce jour-là, à la croix. Amen.